Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier, même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France.
Canal Sud 92.2, bonjour tout le monde. Eh bien, c'est parti pour un contre-histoire de Noël. Seulement, les sourires et les confiseries, c'est pour le jour de Noël. Pour le moment, il va falloir qu'on étudie encore quelques idées reçues dangereuses. On en était arrivé à la cinquième, la semaine dernière. Alors, cette cinquième idée reçue prétend qu'il n'y a pas de risque de perméabilité entre nucléaire civil et militaire. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça voudrait affirmer que les instruments, les matériaux, les composants du domaine nucléaire civil n'ont rien à voir avec la production du nucléaire militaire, à savoir la bombe atomique. Ah oui? Eh bien pourtant, les agents d'Areva eux-mêmes, comme Jacques-Emmanuel Saunier, ont affirmé le contraire, en disant « la filiation est évidente, puisqu'à l'origine, le nucléaire, c'est la bombe ». Et les gens de ma génération se souviennent bien que le dada de De Gaulle, c'était la bombe, c'était pas l'électricité pour tous. Et surtout pas l'électricité domestique. C'était pas pour éclairer les chaumières et surtout les chauffer. Pas du tout, du tout. Non, non. Ce que De Gaulle voulait, c'était la bombette. L'uranium enrichi et le plutonium-239 sont des composants indispensables, tant pour le nucléaire civil que pour la bombe atomique. Le nucléaire militaire a effectivement précédé le nucléaire civil, plus de 20 ans avant la première centrale, la première bombe, appelée « Little Boy », lancée sur Hiroshima le 8 août 1945, était composée d'uranium-235, dit « enrichi ». Par la suite, pour fabriquer la bombe, on a utilisé aussi du plutonium-239, qui peut être extrait d'un réacteur civil. La séparation entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire est donc extrêmement relative. On peut faire une bombe uniquement avec le plutonium produit par les réacteurs ou bien à partir de l'uranium enrichi produit par les équipements de recherche. Le pays disposant d'une centrale nucléaire détient de fait un composant déterminant pour fabriquer l'arme nucléaire. Les acteurs du nucléaire en ont d'ailleurs conscience, car ce sont les premiers à dire que le nucléaire n'est pas pour tout le monde. Le développement de l'énergie nucléaire à l'échelle mondiale peut favoriser la prolifération et va à l'encontre des politiques de désarmement affichées par la communauté internationale. Et les deux zones d'extrême tension internationale, que sont l'Iran et Israël d'une part, et le Pakistan et l'Inde de l'autre, sont d'autant plus dangereux que la menace nucléaire y est très présente. Mais oui. Et puis, la France a négocié, il y a quelques décennies à peine, avec la Libye de Kadhafi pour lui vendre une centrale nucléaire. Et Sarkozy déclarait en septembre 2007 à l'ONU la France est prête à aider tout pays qui veut se doter de l'énergie nucléaire.
Civil, mon œil.
Voilà. L'idée reçue, il n'y a pas de risque de perméabilité, c'est un énorme mensonge. Vous êtes toujours sur Canal Sud pour un contre-histoire un peu particulier. Idée reçue numéro 6. Le nucléaire permet de lutter contre le dérèglement climatique. Mon œil. Cette découverte, mise en avant par les pro-nucléaires, n'a été faite que récemment, bien après la mise en marche du nucléaire civil. Bel effet d'aubaine. C'est en partie vrai. Une centrale nucléaire dans sa phase d'exploitation, une fois qu'elle est construite et approvisionnée et tout, une centrale nucléaire ne dégage que peu de CO2, beaucoup moins que le charbon, le gaz ou le pétrole. Mais une véritable analyse du cycle de vie doit tenir compte de l'amont et de l'aval, donc de l'extraction de l'uranium, du transport, de la construction de la centrale, du stockage des déchets pendant des milliers d'années et du démantèlement des installations radioactives. Les analyses de cycle de vie sont peu disponibles en France, ne sont pas complètes et ont été faites pour la plupart par des acteurs du nucléaire. On en trouve à l'étranger, même si les chiffres varient très sensiblement de l'une à l'autre. Un chercheur de l'Université de Singapour, Benjamin Sovacool, a fait la synthèse de 103 recherches scientifiques publiées à ce jour pour déterminer l'impact de l'énergie nucléaire au niveau des émissions de CO2. Sa conclusion indique que les centrales nucléaires sont responsables en moyenne de l'émission de 66 grammes de CO2 par kilowattheure. Soit de 8 à 15 fois moins que les centrales thermiques à combustible fossile, selon leur rendement énergétique, et 8 fois plus que l'éolien. L'Institut de Zurich, l'Institut Paul Scherrer, parle de 6,5 grammes au kilowattheure, mais sans la gestion des déchets et le démantèlement des centrales nucléaires. Jean Covici, l'un des rares experts écologistes partisans du nucléaire, part dans ses calculs d'une base de 5 grammes par kilowattheure, chiffre fourni, devinez par qui, par l'EDF. Eh oui, il est donc bien difficile d'avoir un avis précis sur cette question. Il est en effet plus facile de marteler que le nucléaire est une énergie propre car elle ne dégage pas de CO2, ce qui est faux, et de noyer son interlocuteur dans un débat d'experts où les données sont difficilement vérifiables. Si la lutte contre ce réchauffement est un objectif de toute première importance, il est plus efficace de s'attaquer aux principales sources de réduction du CO2. La sobriété, l'efficacité, les transports, l'isolation des bâtiments, la relocalisation, la substitution à l'énergie fossile et nucléaire de l'énergie renouvelable. Rappelons que le nucléaire ne pèse que pour 2,5% dans l'ensemble de l'énergie finale mondiale. Si le monde avait utilisé du thermique à la place du nucléaire, l'augmentation des GES, des gaz à effet de serre, n'aurait été que de 1,5% à 3%, selon les sources thermiques utilisées. Si l'on décidait aujourd'hui de fermer les centrales nucléaires et de les remplacer par d'autres sources, thermique, gaz, plus renouvelable, l'émission de gaz à effet de serre n'augmenterait que de 1%. L'impact est donc insignifiant par rapport aux économies de GES, gaz à effet de serre, que l'on peut faire par ailleurs. Cet argument sur les GES des défenseurs du nucléaire est donc tout à fait relatif. En France, l'essentiel des gaz à effet de serre est produit par les transports, pour 26%. Oui, quand on pense qu'une voiture thermique de bas de gamme, hein, une petite voiture thermique, consomme un minimum de 100 grammes, enfin produit un minimum de 100 grammes de gaz à effet de serre au kilomètre. Hein. Alors, faut laisser la bagnole, hein, y a pas d'histoire. Vive les transports en commun, pourvu qu'on nous en apporte, qu'on nous en offre, parce qu'il n'y en a pas encore assez. Donc 26% pour les transports, 19% pour l'agriculture, 20% pour l'industrie et 19% pour l'habitat, tant qu'on n'isole pas. La production de l'électricité ne pèse quant à elle que pour 13%. Il serait donc beaucoup plus efficace pour lutter contre les gaz à effet de serre de s'attaquer prioritairement à ces 3 ou 4 secteurs plutôt que de vanter les bienfaits climatiques du nucléaire au détriment des réacteurs fossiles thermiques classiques. Le recours au nucléaire et la lutte contre les dérèglements climatiques sont en réalité deux choses tout à fait différentes. C'est bien contre histoire ? C'est toujours le nucléaire, mais pas que. Et voilà maintenant une comparaison des productions de CO2 par source de production d'électricité, en prenant le cycle de vie complet, c'est-à-dire depuis l'extraction du gaz ou du charbon, etc., ou du fioul, jusqu'à la production d'électricité. Voilà, précisons que pour le charbon, le fioul et le gaz, cette production de CO2 tient à la combustion. Pour les autres, il s'agit de fourchettes, car ces chiffres varient en fonction des conditions de production de l'énergie utilisée pour la fabrication. Donc, émission de CO2 par source de production d'électricité, en prenant le cycle de vie complet, en grammes de CO2 par kilowattheure produit. Pour le charbon, c'est de 900 à 1050 grammes de CO2 par kilowatt produit avec du charbon. Pour le fioul, c'est de 700 à 800 grammes de CO2 pour 1 kilowattheure. Pour le gaz, on sait que c'est moins polluant. Pour le gaz, c'est de 400 à 500 grammes de CO2. Par kilowattheure produit. On a vu que le nucléaire, c'était 66 grammes. Voyons la biomasse maintenant. Eh bien, la biomasse, ça peut être une sacrée affaire, parce que brûler du bois, ça n'entraîne pas de gaz carbonique. 0 grammes. De 0 à 1500, alors 1500 grammes dans quelles conditions? Ben 1500 grammes si on brûle n'importe quoi, n'importe comment, en particulier si on ne veille pas, si on n'organise pas le renouvellement de la biomasse, c'est-à-dire si on ne replante pas les forêts que l'on brûle pour se chauffer. Voilà. Mais s'il y a renouvellement, on arrive à 0 grammes de CO2, par kilowattheure. C'est une biomasse bien organisée, c'est la championne de la lutte contre les gaz à effet de serre. Le photovoltaïque produit de 50 à 150 grammes de CO2 par kilowattheure. L'éolien, très très modeste, produit de 5 à 20 grammes de CO2 par kilowattheure, y compris la production du béton pour planter l'éolienne, etc. etc. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est en prenant le cycle de vie complet de la production d'énergie étudiée. Et l'hydraulique, les barrages, ça produit 5 grammes de CO2 par kilowattheure.
Monsieur le Président, Je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la fête. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je m'en dirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer.
Le coût de production nucléaire à la sortie de la centrale est officiellement fixé par le gouvernement pour la revente à ses concurrents. Mais le coût réel de production ne représente qu'un tiers du coût final facturé aux particuliers en plus de l'abonnement. Coût de distribution, coût d'investissement, coût de recherche, etc. Il est très difficile de connaître le coût exact du kilowatt nucléaire. Les stratégies financières des différentes structures juridiques intervenant dans le nucléaire, l'État, Areva, Orano, EDF, sont très opaques. Aucun organisme n'intègre la totalité des coûts d'investissement, de recherche, de démantèlement, de stockage des déchets ou d'assurance. Les investissements initiaux ont été financés par les fonds publics. 173 milliards d'euros amortissables, aux trois quarts, sur 30 ans. Ce qui peut être évalué à 2 centimes par kilowattheure. Les coûts de recherche aussi sont estimés à 159 milliards de fonds publics depuis 1974, à amortir sur 30 ans également. Et sont évalués au même niveau environ de 2 centimes par kilowatt. Le démantèlement est évalué de 30 à 150 milliards selon le cas, En Suède et en Angleterre, on arrive à plus de 200 milliards à amortir sur 30 ans, soit plus de 2 centimes d'euros au kilowatt. Le stockage des déchets n'est pas encore chiffrable. À Bure, il est évalué à 35 milliards d'investissements, plus le coût de contrôle annuel d'un milliard d'euros, éternellement. Les autres sites de stockage en ce qu'on appelle subsurface, à faible profondeur, amènent à un coût voisin pour un emprunt sur 30 ans, environ 2 centimes également au kilowatt produit en amont. Je ne garantis pas ces coûts des investissements au kilowatt. Ils sont chiffrés chez Utopia en 2011. Alors j'arrondis aussi logiquement que je peux, sachant que chez Utopia eux-mêmes, c'était assez flou. Imaginez l'inflation sur 2 centimes et à 11 ans de distance, c'est coton. Il conviendrait d'y ajouter les coûts d'assurance. Mais aucune compagnie ne voulant assurer le risque nucléaire, on ne pourrait qu'additionner les coûts et indemnités versés à la suite de Tchernobyl ou Fukushima. Mais les gouvernements ne sont pas bavards à ce sujet. Les radiations étant quasiment éternelles, leurs conséquences le sont aussi, et ne font que s'additionner dans le temps, sans qu'on puisse en chiffrer jamais la facture finale. Le coût global du kilowattheure a été chiffré par Utopia en 2011 à 19 centimes d'euros, facturé artificiellement à 11,5 € à l'époque, le reste étant épongé et dissimulé par les impôts, et donc bien payé en définitive par le citoyen consommateur, sans qu'il puisse établir la comparaison avec les autres sources d'énergie. Le système de facturation d'EDF perdure, et nous continuons de payer notre électricité la plus chère d'Europe, tout en croyant le contraire. Mais aujourd'hui, puisqu'il y a urgence à diminuer nos factures tout en réduisant les gaz à effet de serre, on peut consulter des sites de comparaison des coûts des différentes énergies. Voilà ce que j'ai trouvé sur Pic Bleu.
Vous êtes bien sur Canal Sud, 92.2.
Alors, on donne d'abord le prix de l'énergie selon les origines. Et puis, on donne aussi la note de cette source d'énergie, la note sur 10, note de sobriété en CO2, note de sobriété en gaz carbonique. Hein. Donc, alors l'électricité coûte 18 centimes d'euros 76, et obtient une note de sobriété de 3 sur 10. Le fioul domestique coûte 16 centimes 86 avec une note de sobriété de 0 pointé. Le granulé de bois en sac, conditionné en sac, coûte 14 centimes d'euros, 14 centimes et demi. Et a une note de sobriété de 4 sur 10. Le granulé de bois en vrac, beaucoup moins cher, ne coûte que 12 centimes d'euros 80, avec la même note de sobriété en CO2 de 4 sur 10. Le gaz propane coûte, selon les marques, entre 12 centimes d'euros 97, donc quasiment 13 centimes, à 15 centimes, donc selon les marques, avec une note de sobriété en CO2 de 4 sur 10. Le chauffage urbain, qu'il s'agisse de géothermie ou de biomasse, hein, comme dans un incinérateur qu'on connaît bien à Toulouse, ce chauffage urbain coûte 10 centimes 31 d'euros au kilowatt et arrive à la moyenne en note de sobriété en CO2 5 sur 10. Le gaz naturel coûte 8 centimes 87 et obtient la note de 5 sur 10 en sobriété de CO2. Les bûches de bois sont une énergie à 7 centimes 15 d'euros et obtiennent aussi une note moyenne de 5 sur 10 en sobriété CO2. Le bois déchiqueté coûte 4 centimes 20 d'euros au kilowatt et obtient une note de sobriété très bonne de 7 sur 10, sobriété en CO2. Et évidemment, le solaire à 10 sur 10, étant donné qu'il coûte 0 centime, 0 euro, 0 centime, et que c'est la seule source d'énergie éternelle et gratuite une fois qu'on a fait l'investissement. Alors donc, ces prix ont été fixé au 1er décembre 2022. Ce sont les prix toutes taxes comprises, sans compter le prix des abonnements et des investissements initiaux, bien entendu. Alors, je vous confie que des voisins ont couplé leur pompe à chaleur à 16 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. Ça leur a coûté 8000 euros. Ils ont l'air contents, mais ils n'ont pas pu me dire leurs résultats chiffrés. Ils n'avaient pas leur facture dans la poche. Alors j'attends de leurs nouvelles et je vous dirai ça. Jospin avait demandé en son temps un rapport au commissariat à l'énergie atomique. Et les auteurs avaient conclu pour l'avenir à une forte augmentation de l'électricité, quel que soit le mode de production. On voit donc que plutôt que de gaspiller par l'intermédiaire de l'EDF une partie des fournitures en les transformant en électricité, mieux vaut les consommer telles quelles chez nous, dans le poêle ou la chaudière, jusqu'à ce qu'on puisse s'offrir le photovoltaïque. Étant entendu que le photovoltaïque demande des terres rares, etc., etc. On a déjà fait une émission là-dessus. La pompe à chaleur, c'est d'abord de l'électricité, mais sobre. Et Enercoop en fournit, qui sort exclusivement de son stock de renouvelables. Enfin, je vous avais déjà raconté ça. Ils achètent à EDF, bien sûr, l'électricité, mais à concurrence du total de la production d'hydraulique, de géothermie, des éoliennes et des centrales voltaïques qui la fournissent. Ils investissent à tour de bras pour fournir tous les adhérents. Il faut juste espérer que le gouvernement investisse aussi dans les renouvelables, parce qu'un jour, sinon, Enercoop refusera des clients.
Un garçon part en vadrouille au bord d'un étang. Il attrape une grenouille qui dit en tremblant: laisse-moi m'en aller et je te promets de réaliser trois de tes souhaits. Fais un vœu, mon bonhomme, car je peux, mon bonhomme, si tu veux, mon bonhomme, te donner le bonheur.
Fais un vœu, mon bonhomme, car je peux, mon bonhomme, si tu veux, mon bonhomme, te donner le bonheur.
Tout surpris par ce langage, il lui dit: je veux beaucoup d'or dans mes bagages, des habits soyeux. Mais au bout d'un mois, il revint la voix et lui demanda: donne-moi la gloire. Fais un vœu, mon bonhomme, car je peux, mon bonhomme, si tu veux, mon bonhomme, te donner le bonheur.
Fais un vœu, mon bonhomme, car je peux, mon bonhomme, si tu veux, mon bonhomme, te donner le bonheur.
De tous les puissants sur terre, il devint le roi. Mais dans son cœur solitaire, il n'y avait pas de joie. Il revint un jour, triste et malheureux. Donne-moi l'amour, c'est mon dernier vœu. Ce vœu-là, mon bonhomme, tu l'auras, mon bonhomme. Et cela, mon bonhomme, sera le vrai bonheur.
Fais un vœu, mon bonhomme, car je veux, mon bonhomme, si tu veux, mon bonhomme, te donner le bonheur.
poussant une plainte étrange, la grenouille alors, devant lui soudain se change en fille aux cheveux d'or. La main dans la main, ils s'en sont allés, et sur leur chemin, les oiseaux sifflaient. Sois heureux, mon bonhomme, car ton vœu, mon bonhomme, pour toujours, mon bonhomme, t'a donné le bonheur.
Et j'allais oublier, en Allemagne, l'Institut du Wuppertal a fait une étude sur les conséquences de la sortie du nucléaire pour l'Allemagne. Résultat, répercussions minimes sur le prix de l'électricité. 25 euros par an et par foyer pour éviter Tchernobyl ou Fukushima. Évidemment, l'Allemagne est bien équipée en énergie renouvelable. Elle n'est pas belle, la vie ? Et si vous voulez des données plus précises, voyez le site Global Chance. Un jour de vacances, de préférence, parce que vous n'en sortirez pas facilement. Mais ça rend lucide et ça me donne même de l'espoir. Rien que parce que c'est fait par des gens à la fois intelligents, passionnés et néanmoins scrupuleux. C'est rare. Bon, ben, maintenant, peut-être que les centimes ou les euros et les kilowatts et tout ça, ça suffit pour aujourd'hui. Sinon, j'en aurai plus pour la semaine prochaine. Alors maintenant, eh ben, je vais vous raconter une histoire d'enfant et de Père Noël. Voilà. C'est pas tout à fait une histoire d'enfant et de Père Noël comme toutes les autres, hein, parce qu'elle est signée Italo Calvino. Vous savez, le baron perché, etc. Alors attendez-vous au meilleur. Les enfants du Père Noël. Il n'est pas d'époque de l'année plus agréable, ni meilleure, pour le monde du commerce et de l'industrie que celle de Noël et des semaines qui le précèdent. On entend monter de la rue le son chevrotant des cornemuses. Et les sociétés anonymes, occupées la veille encore à calculer froidement le chiffre d'affaires et les dividendes, ouvrent alors leur cœur aux affections et aux sourires. L'unique souci des conseils d'administration est à présent de donner de la joie à leurs prochains en envoyant des cadeaux accompagnés de vœux, aussi bien à des sociétés de la même branche qu'à des particuliers. Chaque société se fait un devoir d'acheter un stock d'articles à une seconde société pour en faire cadeau à d'autres sociétés. Les fenêtres des dites sociétés restent éclairées fort en avant dans la nuit, spécialement celles du magasin d'emballage, où le personnel fait des heures supplémentaires pour ficeler des paquets et clouer des caisses. Par-delà les vitres embuées, sur les trottoirs recouverts d'une mince croûte de glace, s'avancent les joueurs de cornemuses, descendus pour les fêtes, de sombres et mystérieuses montagnes. Ils font halte au carrefour du centre, un peu éblouis par l'éclat des lumières, par les vitrines surabondamment décorées. Et tête baissée, ils se mettent à souffler dans leurs instruments. Le son de cette musique réussit à apaiser les graves discussions d'intérêt des hommes d'affaires, lesquelles font place à une autre sorte de rivalité. Qui présentera de la façon la plus plaisante le cadeau le plus remarquable et le plus original ? À la SBAV, S-B-A-V, cette année-là, le service des relations publiques proposa que les étrennes destinées aux personnes les plus importantes leur fussent remises à domicile par un coursier déguisé en Père Noël. L'idée suscita l'approbation générale des dirigeants. On acheta un costume complet de Père Noël, barbe blanche, bonnet et houppelande de rouge, bordé de fausses fourrures blanches, grandes bottes. On essaya le tout à différents garçons de course pour voir auquel cela irait le mieux. Mais l'un était trop petit et sa barbe traînait par terre. Un autre, trop grand, n'entrait pas dans la houppelande. Un autre encore était trop jeune. Un autre, enfin, était au contraire trop vieux, si bien qu'il était inutile de le maquiller. Cependant que le chef du service du personnel convoquait d'autres Père Noël possibles, venus d'autres services, les dirigeants de la SBAV, s'étant réunis, cherchaient à creuser l'idée, à l'améliorer. Le service de relations humaines pensait que les paquets cadeaux destinés au personnel devaient leur être remis par le Père Noël lors d'une cérémonie collective. Le service commercial suggérait que l'on fasse une tournée chez les commerçants. Le service publicitaire désirait surtout que le nom de la maison soit bien en évidence, peut-être en accrochant à un fil quatre ballonnets portant les lettres S, B, A, V. Tout s'était pris par l'atmosphère d'activité et de cordialité qui se répandait dans la ville joyeuse et productive. Rien n'est plus beau que d'entendre couler autour de soi le flux des biens de ce monde et en même temps celui du bien que chacun souhaite aux autres. C'est cela, c'est surtout cela, comme nous le rappelle le son « zin zin zin, zin zin zin, zin 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 » des cornemuses. C'est cela qui compte. Au magasin, les biens matériels et spirituels passaient par les mains de Marco Valdo, en tant que marchandise à charger et à décharger. Et ce n'était pas seulement en chargeant et en déchargeant qu'il prenait part à la fête générale, mais aussi en pensant qu'au fond de ce labyrinthe d'une centaine de mille de paquets, l'attendait un paquet qui n'était qu'à lui seul, préparé à son intention par le service des relations humaines. Et plus encore quand il faisait le compte de ce qu'il allait toucher à la fin du mois, y compris le 13e mois et les heures supplémentaires. Avec cet argent, il aurait pu lui aussi courir les boutiques et les grands magasins pour acheter, 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 et faire des cadeaux, faire des cadeaux, faire des cadeaux, comme le lui commandaient ses sentiments les plus sincères et les intérêts généraux du commerce et de l'industrie. Le chef du service du personnel entra dans le magasin, tenant une fausse barbe à la main. « Hé, toi, » dit-il à Marco Valdo, « voyons un peu de quoi tu as l'air avec cette barbe. »« Parfait, c'est toi le Père Noël. Monte au bureau avec moi, vite. On te donnera une prime spéciale si tu fais 50 livraisons à domicile par jour. » Marco Valdo, déguisé en Père Noël, parcourait la ville sur la selle d'un triporteur à moteur, chargé de paquets enveloppés dans du papier multicolore, ficelé avec de jolis nœuds et décoré de petites branches de gui et de houx. La barbe droite blanche le chatouillait bien un peu, mais elle protégeait sa gorge du froid. La première chose qu'il fit fut d'aller chez lui, car il ne pouvait résister à la tentation de faire une surprise à ses enfants. D'abord, se disait-il, ils me reconnaîtront pas. Puis après, ce qu'ils vont rire. Les gosses jouaient dans l'escalier. Ils se retournèrent à peine. « Salut, papa !» Marco Valdo fut plutôt désappointé. « Mais vous voyez pas comment je suis habillée ?»« Et comment que tu crois que t'es habillée ?» dit Pietruccio. « En Père Noël, non ?» Et vous m'avez reconnu tout de suite? C'est pas difficile. On a même reconnu M. Sigismondo, qui était pourtant mieux déguisé que toi. Et aussi le beau-frère de la concierge. Et le père des jumeaux qui habitent en face. Et l'oncle d'Ernestina, celle cadénate. Tous déguisés en Père Noël? Demanda Marco Valdo. Et la désillusion qui perçait dans sa voix n'était pas seulement dû au fait qu'il n'avait pas épaté les gosses, mais aussi au sentiment que le prestige de la SBAV en avait en quelque sorte pris un coup. « Ben, tous comme toi, comme d'habitude, avec une fausse barbe. »« Bof !» répondirent les gosses. et lui tournant le dos, ils reprirent leur jeu. Il s'était trouvé que les services des relations publiques de beaucoup d'autres entreprises avaient eu en même temps la même idée. Et ils avaient recruté un grand nombre de personnes, pour la plupart chômeurs, retraités, camelots, afin de leur mettre la houppelande rouge et la barbe d'ouate. Les gosses, après s'être amusés les premières fois à reconnaître sous ces déguisements des gens de connaissance ou du quartier, en avaient bientôt pris l'habitude et n'y faisaient plus attention. On aurait dit que le jeu qui les occupait les passionnait vraiment. Ils étaient assis en rond sur un palier. « On peut savoir ce que vous êtes en train de comploter ?»«
Laisse-nous tranquille, papa, il faut qu'on prépare les cadeaux. »«
Les cadeaux pour qui ?»«
Pour un petit pauvre. Il faut qu'on trouve un petit pauvre et qu'on y fasse des cadeaux. »«
Oui, qui c'est qui vous l'a dit ?»«
C'est écrit dans le livre de lecture. »
Marco Valdo était sur le point de leur dire « C'est vous les petits pauvres. » Mais durant cette semaine, il s'était tellement persuadé d'être un habitant d'un pays de cocagne, où tout le monde achetait, s'amusait, se faisait des cadeaux, qu'il lui semblait malséant de parler de pauvreté. Et il préféra déclarer « Il n'y a plus de petits pauvres !» Michelino se leva et demanda «
Alors papa, c'est pour ça que tu ne nous apportes pas de cadeaux ?»
Le cœur de Marco Valdo se serra. « Maintenant, dit-il très vite, il faut que je fasse des heures supplémentaires, et puis je vous en apporterai. »«
Comment tes heures supplémentaires ?» demanda Filippetto.
« En livrant des cadeaux, » dit Marco Valdo.
« À nous ?»«
Non, à d'autres. »«
Pourquoi pas à nous ? D'abord les autres. »
Marco Valdo tenta de s'expliquer. « Parce que je ne suis pas le Père Noël des relations humaines. Moi, je suis le Père Noël des relations publiques. Vous avez compris ?»
« Non, tant pis. »
Mais comme il voulait de quelque façon se faire pardonner d'être venu les mains vides, il décida d'emmener Michelino avec lui dans sa tournée de livraison. « Si tu me promets d'être bien sage, tu peux venir avec moi, et tu verras ton père apporter des cadeaux chez les gens, » dit-il en enfourchant la selle de son triporteur à moteur. « Allons-y. Peut-être que je trouverai un petit pauvre, » dit Michelino. Et il monta sur la machine en se tenant aux épaules de son père. Dans les rues de la ville, Marco Valdo ne faisait que rencontrer d'autres Pères Noël, rouges et blancs, absolument pareils à lui, qui pilotaient des camionnettes ou des triporteurs à moteur, ou qui ouvraient les portes des magasins à des clients chargés de paquets, ou qui les aidaient à porter leurs achats jusqu'à leur voiture. Et tous ces Pères Noël avaient un air absorbé et affairé, comme s'ils étaient chargés de l'entretien de l'énorme machinerie des fêtes de fin d'année.
Que sont mes amis devenus, que j'avais de si près tenus, et tant aimés. Ils ont été trop clairsemés, je crois le vent les a ôtés. L'amour est mort. Ce sont amis que vent emporte, et ils vantaient devant ma porte les emporta. Avec le temps qu'arbre des feuilles, quand il ne reste en branche feuille et qui n'aille à terre. Avec pauvreté qui m'atterre, qui de partout me fait la guerre au temps d'hiver. Viens pas que vous raconte comment je me suis mis à honte, en quelle manière. Que sont mes mes amis devenus, que j'avais de si prétenus, et tant aimé. Ils ont été trop clairsemés, je crois le vent les a ôtés. L'amour est mort. Le mal ne sait pas seul venir, tout ce qui m'était à venir m'est avenu. Pauvre sens et pauvre mémoire, m'a Dieu donné le roi de gloire, et pauvre rente, et droite au cul quand bise vente, le vent me vient, le vent m'évente, l'amour est mort. Ce sont amis que vent emporte, et ils vantaient devant ma porte, les emporta. L'espérance de lendemain, ce sont mes fêtes.
Et Marco Valdo, absolument pareil à eux, consultait sa liste et courait d'une adresse à l'autre, descendant de sa selle, triait les paquets du triporteur, en prenait un, le tendait à qui lui ouvrait la porte et scandait « La Sbave vous souhaite un bon Noël et une heureuse année !» Là-dessus, il empocha un pourboire. Ce pourboire était parfois assez important, et Marco Valdo aurait dû en être satisfait. Mais il lui manquait quelque chose. Chaque fois avant de sonner à une porte, suivi de Michelino, il se réjouissait à l'avance à l'idée de l'émerveillement de celui ou de celle qui, venant lui ouvrir, aurait vu le Père Noël en personne devant lui. Il s'attendait à de la joie, à de la curiosité, à des remerciements. Et chaque fois, il était accueilli comme le facteur qui apporte quotidiennement le journal. Il sonna à la porte d'un luxueux hôtel particulier. Une gouvernante vint lui ouvrir. « Ah, encore un paquet. C'est de qui ?»« La Sbave vous souhaite. Bon, bon, apportez-le par ici. » Et elle précéda le Père Noël dans un couloir qui n'était que tapis, tapisserie et vases de porcelaine de grand prix. Michelino, regardant de tous ses yeux, suivait son père. La gouvernante ouvrit une porte vitrée. Ils entrèrent dans une pièce au plafond, si haut, qui s'y dressait un sapin. C'était un arbre de Noël étincelant, de boules de verre de toutes les couleurs, et aux branches duquel étaient accrochés des cadeaux et des friandises de toutes sortes. Du plafond pendaient de lourds lustres de cristal, et les plus hautes branches du sapin s'empêtraient dans ces pendeloques scintillantes. Sur une grande table étaient disposés des cristaux, de l'argenterie, des boîtes de fruits confits et des petites caisses de bouteilles. Les jouets, éparpillés sur un grand tapis, étaient si nombreux qu'on se serait cru dans une boutique de jouets. C'étaient surtout des engins électroniques compliqués et des modèles réduits de fusées spatiales. Sur un coin libre de ce tapis, un enfant d'environ 9 ans était allongé à plat ventre, l'air boudeur et ennuyé. Il feuilletait un livre illustré comme si tout ce qui l'entourait ne le concernait absolument pas. « Gianfranco, lève-toi, Gianfranco !» dit la gouvernante. « Tu as vu que le Père Noël est revenu avec un autre cadeau ?»« 312 !» dit l'enfant sans lever les yeux de dessus son livre. « Qu'il le mette là !»
C'est le 312e cadeau qui arrive, dit la gouvernante. Gianfranco est si gentil qu'il les compte et qu'il n'en oublie pas un. Sa grande passion, c'est de compter. Marco Valdo et Michelino quittèrent la maison sur la pointe des pieds. « Papa, ce petit garçon, c'est un petit pauvre ?» demanda Michelino. Marco Valdo était occupé à mettre de l'ordre dans les paquets du triporteur et il ne répondit pas tout de suite. Mais au bout d'un instant, il se hâta de protester. « Pauvre, qu'est-ce que tu me chantes là ? Tu sais qui c'est son père ? C'est le président de l'Union pour le développement des ventes des fêtes de Noël, le Commendatore. » Il s'interrompit parce qu'il ne voyait plus Michelino. « Michelino, Michelino, où es-tu ? » Le gosse avait disparu. « Il a dû voir passer un autre Père Noël et il l'aura pris pour moi et il l'aura suivi. » Marco Valdo continua sa tournée, mais il était un peu inquiet et il lui tardait de rentrer chez lui. Chez lui, il retrouva Michelino, bien sage avec ses frères. « Dis donc toi, où que t'as été ?»« Je suis venu ici, chercher les cadeaux. »« Ben oui, les cadeaux pour ce petit pauvre. »« Hein ? Qui ça ?»« Celui qui avait l'air si triste, celui de la belle maison avec l'arbre de Noël. »« Celui-là ? Mais quel cadeau tu pouvais donc lui faire, toi ?»« Oh, on les avait bien préparés. Trois cadeaux enveloppés dans du papier d'argent. » Ses frères intervinrent. On est allé lui porter tous ensemble. Si t'avais vu ce qu'il était content. Que vous dites ? Dit Marco Valdo. Il ne manquait plus que vos cadeaux pour être content. Oui, oui, nos cadeaux. Il a tout de suite déchiré le papier pour voir ce que c'était. Et qu'est-ce que c'était ? Le premier, c'était un marteau. Tu sais, ce marteau tout gros, tout rond, en bois. Et alors ? Il sautait de joie. Il l'a empoigné et il a commencé à s'en servir. Quoi ? Il a cassé tous les jouets, les verres, les bouteilles, les assiettes, puis il a pris le deuxième cadeau. Qu'est-ce que c'était ? Un lance-pierre. Si t'avais vu ce qu'il était content, il a cassé toutes les boules de verre de l'arbre de Noël, puis il s'est attaqué au lustre. Assez, assez, je ne veux plus rien entendre. Et le troisième cadeau ? On n'avait plus rien à lui offrir, alors on a enveloppé une boîte d'allumettes de cuisine dans du papier d'argent. C'est le cadeau qui lui a fait le plus plaisir. Il disait « On ne me laisse jamais toucher aux allumettes. » Et il a commencé à les allumer. Et il a fichu le feu partout. Marco Valdo se prit la tête dans les mains. « Je suis foutu. » Le lendemain, en se présentant à la SBAV, il sentait couver l'orage. Il s'habilla en Père Noël, vite, vite, chargea les paquets à livrer dans son triporteur, assez surpris que personne ne lui eût encore rien dit, quand il vit venir à lui trois chefs de service, celui des relations publiques, celui de la publicité et celui du bureau commercial.
« C'est bien contre histoire ?»
« Stop !» lui dirent-ils. « Déchargez tout, tout de suite !»
Ça y est, se dit Marco Valdo, se voyant déjà mis à la porte.
« Vite ! Il faut remplacer les paquets !» dirent les chefs de service. L'Union pour le développement des ventes des fêtes de Noël vient de lancer une campagne en faveur du cadeau destructif.
« Comme ça, tout d'un coup !» commenta l'un d'eux.
« Ils auraient pu y penser avant !»
« C'est une idée subite du président, » expliqua un autre. « Il paraît que son fils a reçu des articles cadeaux d'un moderne japonais, je crois. Et pour la première fois, on l'a vu s'amuser. »
Le plus important là-dedans, ajouta un troisième, c'est que le cadeau destructif sert à détruire les articles de toutes sortes, exactement ce qu'il faut pour accélérer le rythme de la consommation et réanimer le marché. Tout cela, on n'a rien de temps. Et à la portée d'un enfant. Le président de l'Union a vu s'ouvrir de nouveaux débouchés. Il est fou de joie.
Mais cet enfant, demanda Marco Valdo, avec une pauvre petite voix, cet enfant, il a vraiment détruit beaucoup de choses ? Faire un calcul, même approximatif, est difficile, puisque la maison a brûlé. Marco Valdo retourna dans la rue, illuminé comme en pleine nuit, et qui regorgeait de mamans, d'enfants, d'oncles, de grands-pères, de grand-mères, de paquets, de ballons, de chevaux à bascule, d'arbres de Noël, de Père Noël, de poulets, de dindes, de panettoni, de bouteilles, de joueurs, de cornemuses, de ramoneurs, et de marchands de marrons qui faisaient sauter des poêlés de châtaigne sur leurs fourneaux ronds, noirs et ardents. Et la ville semblait plus petite, pelotonnée dans une boule de verre lumineuse, ensevelie au cœur sombre d'une forêt, parmi les troncs centenaires des châtaigniers et sous un immense manteau de neige. Quelque part dans l'ombre, on entendait le hurlement d'un loup. Le gîte des lièvres était enfoui sous la neige, dans la chaude terre rouge, et sous une couche de bogue de châtaigne. Il en sortit un levreau, blanc sur la neige. Il remua les oreilles, courut sous la lune, mais était blanc et on ne le voyait pas. C'était comme s'il n'existait pas. Seules ses pattes laissaient dans la neige une légère empreinte, pareille à des petites feuilles de trèfle. On ne voyait pas le loup non plus, parce qu'il était noir, et il restait dans l'ombre noire de la forêt. On voyait seulement ses dents blanches et pointues quand il ouvrait la gueule. Il y avait une ligne où finissait le bois tout noir et où commençait la neige toute blanche. Le levreau courait d'un côté et le loup de l'autre. Le loup voyait les empreintes du levreau et les suivait, mais en restant toujours dans le noir pour ne pas être vu. Le levreau devait se trouver à l'endroit où les empreintes cessaient, et le loup sortit du noir, ouvrit toute grande sa gueule rouge aux dents pointues et mordit le vent. Le levreau était un peu plus loin, invisible, et il se frotta l'oreille d'une patte et se sauva en bondissant. « Est-il ici? Est-il là? Non, il est peut-être un peu plus loin. » On ne voyait plus que l'étendue de neige blanche.
Voilà, pour aujourd'hui, c'est fini. Je vous souhaite un joyeux, joli et très gai réveillon. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine.
Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier, même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. La justice, qu'en pense-t-elle puisqu'elle ne peut point s'exprimer? Elle s'exécute convenablement sous la pression de l'Élysée, mettant en cause l'un des fondements de la structure démocratique. On interfère dans les affaires quand ces dernières deviennent critiques, usant des procédés injustes, des républiques bananières, comme un joker sorti de sa manche que l'on appelle raison d'État. Mais quand l'État manque de raison, c'est la balance qui penche et on se cache derrière s'injuste comme une femme sous la burqa. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Dans la chambre des
des députés. On a bêlé au dialogue de sourds et sa chante et sa caquette pour être le coq de la basse-cour. C'est le bordel dans cette piole, faudrait penser à faire le ménage. La dernière fois que cela fut fait devait dater du Moyen-Âge. Chacun y va de son coup de gueule, donnant ses lois incohérentes. Mais commencer par s'écouter serait peut-être la base d'une bonne entente. Messieurs les députés de France, souriez donc, vous êtes filmés, vous êtes devenus les nouvelles stars de cette France réalité. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France.